quelle journée.
Mais quelle journée. Ah, c'était complètement fou aujourd'hui. Ah, bonjour. Vous êtes nombreux. Vous êtes une vraie foule. Je vois qu'il y a des enfants. Mais il y a aussi des parents, des grands-parents peut-être même, quelques cheveux gris, quelques cheveux blonds, des cheveux bruns. Ouais, vous êtes vraiment nombreux. Ben, c'était comme ce matin. Ce matin, c'était incroyable. Faut que je vous raconte. Ce matin, c'était au bord de la mer. Enfin, au bord de la mer, on était comme une foule là, au bord de la mer. Enfin, je dis la mer parce que les gens chez nous, ils aiment pas tellement l'eau. Alors, dès qu'il y a une gouille, c'est une mer. Mais il y en a qui disent plutôt que c'est un lac. Vous avez un lac par ici? Il s'appelle comment? Ah, vous avez aussi des problèmes parce que chez nous, on ne sait jamais si c'est le lac de Tibériade, le lac de Génézareth, le lac de Galilée. On voit qu'il y a toujours des problèmes avec ces histoires de lacs. Alors, on était toute cette foule au bord du lac. On était très, très nombreux. Il y avait des grands, il y avait des petits. Il y a certains des petits, les parents, ils les avaient pris sur les épaules. Ils disaient, tu vois quelque chose? Je dis, non, je vois rien pour le moment. Et on attendait. On attendait le bateau. C'est pas qu'on allait partir en croisière, mais on attendait les gens qui étaient sur le bateau et plus particulièrement une des personnes qui est sur le bateau, qui est une véritable star par chez nous. C'est un type incroyable. Il a fait des choses, je sais pas, des trucs, c'est pas possible, quoi. On peut dire c'est des miracles. Et puis quand il parle, c'est comme si on comprenait quelque chose à la vie. C'est comme si on comprenait quelque chose de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il est comme ça populaire, que c'est devenu vraiment une star. On était tous les uns à côté des autres à essayer de voir si... Et puis tout d'un coup, quelqu'un a dit « Là-bas !» On a tous tourné le regard et effectivement, on voyait la voile. La voile était sur le lac. Elle faceillait un peu. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Ce matin-là, le lac était calme comme un miroir. C'est pas toujours le cas. L'autre nuit, on a eu une tempête monstrueuse, monstrueuse. Mais ce matin-là, c'était calme et le bateau arrivait gentiment vers nous. Ils avaient mis les rames pour avancer un peu plus vite. Le bateau est arrivé, il a fait un arc de cercle, il est arrivé, les gars ont donné 2-3 coups de rame, il a accosté très propre. Vraiment des pros, incontestablement. Et puis, le type qu'on attendait, ah, je vous ai pas dit, c'est un gars qui est pas très très loin de chez nous, il s'appelle Jésus. Le type qu'on attendait, ce Jésus, cette star, il est descendu. Alors il y a eu comme un mouvement de foule, on a tous essayé d'être un peu plus près, et puis il est descendu, il s'est avancé sur la grève. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de pas tout à fait habituel. Il y a un notable de la région, un type encore jeune, mais déjà très respecté, tout à fait respectable d'ailleurs, qui s'est approché. Il a traversé la foule et il a foncé vers Jésus. Et là, il a fait une chose étonnante. Il s'est agenouillé. Enfin, même plus qu'agenouillé, il s'est couché, jeté aux pieds de Jésus. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Tout de suite, il y a eu un mouvement dans la foule, évidemment, parce que c'était peu habituel. Et on n'a pas entendu bien ce qu'il disait. J'ai pas entendu, j'étais trop loin. Mais il a dit quelque chose à Jésus. Et à ce moment-là, ils se sont mis ensemble en route, en direction de la maison de Jaïrus qui est là-bas. Alors nous, on a suivi, toute la foule les a suivis. On marchait derrière, fallait faire attention de ne pas marcher sur les pieds des gens, mais surtout faire très très attention que les gens vous marchent pas sur les pieds, c'est vous dire si c'était compliqué. On se frottait, on était coude à coude, épaule contre épaule, et on avançait sur ce chemin pour rejoindre apparemment la direction de la maison de Jaïrus. Et là, il s'est passé une chose étonnante. C'était étonnant, c'était même plus qu'étonnant, c'était merveilleux. Il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il lui a dit, ma fille, va en paix. On était encore sous le coup de l'émotion, et puis on s'est remis à marcher en direction de la maison de Jaïrus, sur le chemin. On les suivait, Jésus et Jaïrus, et on a vu arriver un homme qui arrivait en courant. Peut-être un serviteur ou quelque chose comme ça. Il est arrivé vers Jaïrus, il lui a dit, Jaïrus, Jaïrus, ta fille est morte. Ta fille est morte, c'est pour ça qu'on marchait. C'est pour ça qu'on allait là-bas. Ta fille est morte, Jaïrus. Ça sert à rien. Laisse tomber. Jaïrus, ça l'a. Jaïrus, ça l'a anéanti. Il était là comme détruit. Jésus s'est approché et lui a dit, « Jaïrus, ne crains pas, n'aie pas peur, Jaïrus, crois seulement. » Et ils se sont remis en marche, ils se sont remis en marche sur ce chemin qui allait vers la maison, ils se sont mis en marche sur ce chemin caillouteux et poussiéreux. Ensemble, ils marchaient devant, nous on était derrière, on suivait, on essayait de... On voulait savoir un peu qu'est-ce qui allait se passer. Le chemin n'était pas si facile, il était plus long qu'on j'aurais pensé au premier abord. On est arrivé vers la maison, Jésus s'est retourné, il a dit, non, vous restez dehors. J'entrerai avec Jaïrus. Et puis il a pris encore 3 des matelots du bateau. Pierre, Jacques, Jean. Oh, on était dehors. Ils sont entrés. Jésus, Jaïrus, les 3 matelots. Un petit moment après, la porte s'est rouverte. Et tous les gens de la maison sont sortis. Tous les serviteurs, tous les parents qui étaient là, tous, ils sont tous sortis. Il ne restait dans la maison plus que Jaïrus, sa femme, Jésus, ses disciples et l'enfant. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être demain, je saurai.
Dans Luc 8. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jaïrus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous les côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touchée et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Va donc en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, « Ta fille vient de mourir, n'importe plus le maître. » N'importune plus le maître. En entendant cela, Jésus dit à Jaïrus, « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi !» Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé.
Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, le Seigneur Jésus promet sa présence. Je vous propose de prier. Nous te remercions, Seigneur, pour la promesse de ta présence au milieu de nous. Nous te demandons maintenant d'éclairer nos intelligences, d'ouvrir nos cœurs pour que ta parole puisse s'y enraciner, pour qu'elle puisse grandir dans nos vies et pour qu'elle puisse porter du fruit. Nous te demandons, Seigneur, cela pour chacun d'entre nous. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, enfant, adulte. Ta présence, Seigneur, est promise à chacun. Et nous t'en remercions. Accompagne-nous, Seigneur, maintenant, accompagne les enfants pendant le temps qu'ils vont partager ensemble. Amen. Alors je vous propose maintenant de chanter, voyons voir, un chant qui est le numéro 612. Dieu fidèle, tu ne changes pas. C'est plus important que 612. Dieu fidèle, tu ne changes pas, n'est-ce pas?
Deux histoires différentes, et la juxtaposition de ces deux histoires a quelque chose qui peut surprendre. Parce qu'on a d'un côté un homme dont on connaît le prénom, dont on connaît la position, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, tout le monde connaît son problème. Et à la fin de l'histoire, cet homme, il disparaît dans sa maison, on ne sait pas ce qui lui arrive, on ne voit plus rien. Et de l'autre côté, on a une femme. Au début, on ne sait même pas qu'elle est là. Personne ne la connaît. Et à la fin de l'histoire, tout le monde l'a vue. Tout le monde l'a entendue. Tout le monde connaît son histoire. Alors, avec vous, je vais essayer de comprendre un peu ce qui leur est arrivé. D'abord, la femme. Avec Lydie, vous avez vu comme elle avait peur de toucher des objets, des personnes figurées par ses micros et ses lutrins. C'est parce qu'elle a une perte de sang. Et il faut savoir, selon la loi juive, une femme qui a une perte de sang est impure. Et elle rend impure, elle contamine tout ce qu'elle touche, les objets, comme sa chaise, son lit, et les personnes qu'elle touche. Et si quelqu'un la touche ou touche un objet qu'elle a touché, il est aussi impur. Et ce n'est pas rien, parce qu'après il doit se laver son linge, et il est impur jusqu'au soir. Donc, c'est vraiment un gros handicap d'avoir une perte de sang. Et le problème, c'est que cette perte de sang, elle l'a depuis 12 ans. Elle a essayé de guérir pour ne plus être impure, mais les médecins n'ont rien pu faire pour elle et son état a encore empiré. Ça fait donc 12 ans qu'elle a peur d'avoir du contact avec les autres. Je me dis que petit à petit, elle a dû intégrer le fait que ce n'était pas seulement à cause de sa perte de sang qu'elle était impure, mais que sa personne même était impure. Voilà pourquoi Lydie était dans cet état quand elle nous faisait voir qui était la femme. Mais cette femme a entendu parler de Jésus qui guérit. Elle se dit, peut-être là il y a un espoir. Alors elle va vers Jésus et elle réussit à toucher la frange de son vêtement. Elle a fait très très attention pour que personne ne la remarque, pour que personne ne la voie. Et là, quelque chose de positif se produit. Quelque chose de bon pointe en elle. Elle qui est dans la nuit depuis 12 ans. Elle a senti dans son corps que sa perte de sang s'était arrêtée instantanément. Joie ! Ouais, mais Jésus pose une question. Qui est celui qui m'a touchée ? Est-ce d'elle qu'il parle ? Et Jésus insiste. Mais j'ai senti une force qui était sortie de moi. Alors, c'est bien d'elle qu'il parle, puisqu'il a vécu la même chose qu'elle. Tremblante, elle se jette à ses pieds et joue le tout pour le tout. Elle raconte tout, sa maladie, son impureté, sa peur du jugement, sa honte, son espoir. Et Jésus écoute. Il y a la foule qui attend. Il y a Jaïrus, dont la fille est en train de mourir. Mais Jésus prend le temps et il l'écoute. Est-ce qu'elle avait caché, tout au fond d'elle-même, ce dont elle avait tellement honte? Voilà que c'est dans la lumière, voilà que tout le monde le voit longtemps. Que va-t-il lui arriver? Va-t-elle être foudroyée sur place? C'est ces espèces de fantasmes qu'on a en soi, hein, que quand on a fait une faute, on va être foudroyé sur place par une justice divine, renvoyée dans sa nuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus a dit « Qui est celui qui m'a touché ?» et non pas « Qui m'a touché ?» Il me semble que par cette formulation, il cherche une personne et non pas un coupable. Jésus ne la juge pas, ne lui adresse aucun reproche. Au contraire, il l'appelle « ma fille ». Et ce mot de « fille », c'est le mot d'un père pour sa fille. Il dit aussi « ma fille ». Ça, c'est une parole qui la relie à lui. C'est une parole qui lui donne un lien à elle, cette femme qui a été privée de lien depuis tellement longtemps. L'appeler ma fille, c'est un baume sur son cœur. Ta foi t'a sauvée. Elle ne mourra donc pas comme elle l'a craint. En disant cela, il atteste que ce qu'elle a dit est vrai et qu'elle a placé sa confiance au bon endroit. Va en paix. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu ne seras pas inquiété, tu peux aller en paix, va. Il la rend à la vie et il lui redonne une place parmi la foule, parmi nous, comme Lydie a retrouvé sa place parmi nous. Maintenant Jaïrus. Jaïrus, il a fait tout ce qu'il a pu pour que sa fille vive. Il était attaché aux Écritures, il obéissait à la loi, il était chef de la synagogue. La bénédiction de Dieu aurait dû l'accompagner, mais sa fille est mourante. Alors il met sa fierté dans sa poche. Il prend le risque de perdre sa réputation et sa place, parce qu'il supplie Jésus, et Jésus est contesté par les chefs religieux. On était en route pour aller chez lui quand Jésus s'est arrêté pour s'occuper de la femme, et du temps s'est écoulé. Jésus parlait encore quand arrive de chez la synagogue, chez le chef de la synagogue, des gens qui disent « Ta fille est morte, n'ennuie plus le maître. » Quoi ? La prière de cette femme impure qui est venue par derrière, sans courage, à la limite de la superstition, la prière de cette femme a été exaucée instantanément, et la prière de Jaïrus, cet homme respectable qui obéit à la loi, qui fait des efforts pour Dieu, qui s'est montré humble, sa prière à lui n'a pas été exaucée. Sa fille est morte. C'est injuste. Les critères de Dieu ne sont vraiment pas les nôtres. Les schémas qui nous rassurent sont bouleversés. Quelle est la bonne manière de croire? Y a-t-il une bonne ou une mauvaise manière de croire, sous-entendu pour avoir la façon de Dieu? Il semble que non. Et c'est très désécurisant, ça. On ne peut rien maîtriser. Pas de truc, pas de schéma, mais une personne, Jésus. Ne pas s'appuyer sur la bonne manière de croire, mais sur une personne, Jésus. Nous sommes en chemin. Nous ne savons pas où ce chemin nous conduira. Mais Jésus a promis qu'il serait avec nous. La fille de Jaïrus est morte, c'est fini. Jaïrus vit un crash intérieur. Son monde s'écroule, sa fille est morte, et toutes ses certitudes, tous ses espoirs avec. Il est perdu, il ne sait plus. Sa vie, sa personne a-t-elle de l'importance? Il s'est occupé de la femme plutôt que de lui. Bien qu'encore occupé par la femme, Jésus a entendu et vu Jaïrus et sa détresse. Et pour la première fois, Jésus lui adresse la parole. « N'aie pas peur, crois seulement. » C'est curieux, Jésus ne lui adresse pas une parole de consolation. C'est ce qu'on aurait pu entendre, puisqu'il a perdu sa fille. Non, Jésus lui dit « N'aie pas peur », parce qu'à ce moment-là, Jaïrus a très peur. Il n'a plus rien, il est à nu, il est vulnérable. Et ça me fait penser à Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin et qu'ils avaient mangé le fruit défendu, et qu'ils entendent la voix de Dieu. Adam a dit « J'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » Et Dieu leur a donné des peaux de bête pour s'habiller. Jésus dit à Jaïrus « N'aie pas peur, crois seulement. » Seulement ? Sans quoi ? Sans son titre, sans ta bonne doctrine, sans ton obéissance à la loi, sans tes efforts, dans l'état où tu es, crois, ça suffit, viens. Et ce n'est plus Jaïrus qui tire Jésus chez lui, c'est Jésus qui prend les choses en main. Quand on a peur, on a besoin de protection. Jésus la lui offre. Il ne laisse personne l'accompagner sauf trois disciples. Arrivé chez Jaïrus où il y a du bruit, de l'agitation, il met tout le monde dehors. Jésus se met entre Jaïrus et les autres. Il le met au calme. Il le protège. Il le soustrait au regard et à l'attente des autres. Et il entre. Il entre, et ça m'a aussi frappé dans le texte, c'est dans Marc. Il entre là où se trouvait l'enfant, là où se trouvait le problème. Et là, dans le secret de cette maison, il se passe quelque chose qui n'est que pour Jaïrus et sa fille et sa famille. Jésus le lui offre comme tel. À part les trois disciples, personne ne voit ce qui se passe et Jésus lui recommande de n'en parler à personne. Pas besoin de t'exposer, c'est à toi. Tu peux en rester là. Et Jésus rend la vie à sa fille. Finalement, la prière de Jaïrus a été exaucée. Il est vrai qu'en plus, il a appris qu'il était accueilli tel quel, les mains vides, sans rien à donner pour mériter, sans rien à donner en retour. Mais à quel prix la vie de sa fille? Pourquoi Jésus a-t-il laissé mourir sa fille? Et cette question nous renvoie à nos propres pourquoi quand nos prières ne sont pas exaucées. Je n'ai pas trouvé de réponse. Mais j'ai vu comment Jésus s'est occupé de Jaïrus. Il ne lui a pas fait la leçon du style « Il fallait que ta fille meure pour que tu saches qu'il fallait avoir confiance en moi plutôt que dans ce que tu crois. » Non, il ne l'a pas laissé seule. Il a respecté sa peine, son désarroi, et sa peur. Il lui a permis de les vivre en le mettant à l'abri. Il lui a donné un espace pour se retrouver, repenser sa vie après ce qui vient de lui arriver. Je me dis aussi que peut-être, quand nous ne recevons pas de réponse à nos prières, c'est peut-être que nous ne cherchons pas Jésus là où il est. Parce que quand Jaïrus et la femme ont été rencontrés par Jésus, il était où Jésus? Il était justement là où ils avaient mal, là où ils avaient peur. Nous aussi, tout au fond de nous, nous avons peur, nous avons des peurs. Nos faiblesses, la souffrance, nos manquements, le jugement des autres nous font peur. Et nous nous cachons, nous nous blindons. Ce n'est pas agréable de vivre ça. Nous regardons ailleurs et nous demandons à Jésus de s'occuper de cet ailleurs plutôt que de s'occuper de là où on n'est pas bien. Le regard que Jésus porte sur nous est plein d'un infini respect. vraiment est d'une bienveillance absolue. Il accueille toujours, chaque fois, il ne rejette jamais, même le coupable. Nous pouvons donc parler avec lui de ce que nous n'aimons pas en nous. Nous ne serons pas mal jugés, nous serons accueillis. Il faut avoir cette confiance-là pour parler à Jésus de ce qui nous fait mal. La peur est un sentiment humain, il n'y a pas à en avoir honte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des bons chrétiens si on a peur. Jésus lui-même a connu la peur. L'exemple le plus fort, c'est quand il était dans le jardin de Gethsémané. Il a peur de ce qui est devant lui. Et il en parle avec son Père. Il raconte ce qu'il y a en lui jusqu'à ce qu'il soit apaisé. Puis, il se laisse arrêter. Il va vers son jugement, sa souffrance physique et morale, sa mort. Le dialogue avec son Père n'a pas enlevé les obstacles qui étaient devant lui, mais ayant été rencontré dans sa peur, se sachant aimé et accompagné, il a été en mesure d'aller vers ce qu'il attendait. L'exemple de Jésus nous montre que c'est possible. Jésus n'a pas reçu un blindage contre la souffrance. Jésus a reçu ce qu'il fallait pour la traverser. Quand on vit une rencontre avec Jésus au plus profond de notre être, il se produit quelque chose de particulier qui est assez difficile à décrire et qui est propre à chacun. C'est difficile à décrire, c'est difficile à transmettre, mais cette rencontre nous donne une sécurité intérieure réelle, la sécurité dont nous avons besoin dans la vie. C'est la sécurité que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, même pas la mort. Nous allons vivre la Sainte Cène. Jésus est mort sur la croix. La Sainte Cène, c'est un lieu, et la croix, c'est un lieu de rencontre avec Jésus. Sa mort nous montre la vérité sur nous-mêmes. Et son attitude et ses paroles à ce moment-là nous disent la qualité de l'amour qu'il a pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il est en train de mourir, Jésus accueille nos personnes dans la totalité dans ce que nous sommes, avec le bon et le mauvais. Mais Jésus ressuscite, preuve que ce qui est mauvais en nous et la mort ne sont pas une fin, que la vie est devant nous. Pendant la Sainte Cène, nous aimerions vous donner l'occasion de vivre cette rencontre. C'est pourquoi nous vous inviterons à vous approcher de Jésus comme la femme et Jaïrus se sont approchés de lui. Et peut-être en vous approchant de lui, lui parler de quelque chose qui vous chicane, de le laisser regarder, en vous souvenant que son regard est plein d'un infini respect et d'une bienveillance absolue. Il vous accueillera toujours, chaque fois. Il ne vous rejettera jamais. Nous prions. Seigneur, ce matin, nous avons vu la femme qui voulait passer inaperçue et Jaïrus. Nous avons été touchés par ce qu'ils ont vécu. Nous avons été touchés par ce que tu leur as dit. Seigneur, nous venons vers toi parce que nous avons besoin, nous aussi, d'être rejoints dans ce que nous vivons. Merci, Seigneur, parce que ton amour est là. Ton amour est là qui guérit nos vies. Ton amour est là, puissant, infini. Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous ce matin, qu'il puisse sentir un peu de cet amour, ou beaucoup, dans son cœur, chacun.